إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au quatrième point. Le Cheikh il dit Rabi'an. Ah oui, en passant, c'est avant de commencer, c'est le cours numéro 35 aujourd'hui, 36. C'est le cours numéro 36 dans la série des Durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi par le Cheikh Salih Al-Fawzan. Et on est arrivé au quatrième point, Ahkam al-Takfin. C'est-à-dire, comment on prépare le corps lorsqu'on a terminé de le laver, pour l'envelopper d'un drap ou d'un tissu pour le préparer avant de l'enterrer. Donc là, maintenant, c'est ça ce qu'on va expliquer maintenant, les règles, pour un bon terme, en tout cas. Takfin, moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est, Inch'Allah, c'est quand tu enveloppes le corps du mort avec un vêtement pour le préparer avant de le mettre dans la terre. Bon. Là, le Cheikh, il dit, بعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. Donc après avoir lavé le mort et de l'avoir asséché son corps avec un linge pour enlever l'eau, eh ben c'est ça fait partie donc des règles de la charia de préparer le mort avant de l'enterrer en l'enveloppant d'un drap. ويشترط في الكفن أن يكون ساترا ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا. Le Cheikh dit que comme condition, il faut que le drap qu'on utilise pour le envelopper le mort soit quelque chose qui soit qu'il recouvre complètement le mort, et c'est recommandé qu'il soit blanc et propre, si c'est possible qu'il soit nouveau, que ce soit un matériel neuf, c'est le mieux, sinon qu'il soit au moins lavé et propre. Après, le Cheikh il dit ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت. Il dit la quantité nécessaire pour le kafan qui est obligatoire, c'est que ce soit un vêtement ou un tissu qui recouvre complètement le mort en entier. والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف وتكفين المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفتين أو لفافتين ولفافتين. C'est ça. Donc le Cheikh il dit c'est recommandé pour l'homme qu'il soit enveloppé dans trois draps, et pour la femme c'est recommandé de l'envelopper dans cinq vêtements. Un izar, c'est la jupe, disons un genre de jupe, un drap qu'on attache de la taille jusqu'au pied. Et ensuite un khimar pour la tête et le haut du corps. Et un kamis pour mettre par-dessus le tout. Et ensuite on l'enveloppe dans deux draps. D'accord. Et le Cheikh il dit wa yukaffan as-saghir as-saghir fi thawb wahid wa yubahu fi thalathati athwab. Il dit que on enveloppe un petit enfant dans un seul drap, Et c'est permis de le faire également avec trois draps. Ensuite, il dit وتكفن الصغيرة بقميص ولفافتين. Donc pour la fille, pour la petite fille, on l'enveloppe dans un, on la met dans un kamis, dans une longue chemise, puis on l'enveloppe avec deux draps. Et il dit ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتتعلق بها رائحة البخور. Il dit que c'est recommandé de mettre de l'encens, disons que on fait brûler de l'encens à l'endroit où on met les tissus et les draps, pour que la fumée de cet encens-là ou du bukhur s'imprègne dans le tissu avec de l'eau de rose également. On asperge avec de l'eau de rose aussi, pour que l'odeur de l'encens et du bukhur s'imprègne dans les tissus qu'on utilise pour envelopper le mort. Ensuite, il dit وَيَتِمُ تَكْفِينُ الرَّجُلُ بِأَن تُبْسَطْ اللَّفَائِفِ الثَّلَاثِ بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا. Donc Cheikh il dit comment on fait pour préparer le mort, avant de l'envelopper, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur on met les trois draps un par-dessus l'autre et on amène le mort et on le dépose sur les trois draps, hein, et on l'amène le mort alors qu'il est couvert, qu'il est abrié de qu'est-ce qui est obligatoire de couvrir, avec un vêtement, d'accord, on le met pas nu, on l'amène avec des vêtements sur lui, et on le met sur ces trois draps allongés. Après, le cheikh dit ثُمَّ يُؤْتَى بِالْحَنُوتِ وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين إليتي الميت وتشد فوقه خرقة ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده جبهته وأنفه وَيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ. Donc le cheikh il dit, puis ensuite on amène du parfum, puis on met de ce parfum là dans un morceau de coton, et puis on le place là où il y a les testicules, et on met par dessus on l'attache avec un drap, puis ensuite on met le reste des morceaux de coton sur ses deux yeux. On met un morceau de coton avec le parfum dedans sur ses deux yeux, sur sa bouche, dans ses oreilles, et on met également du parfum aux endroits où il y a où on se prosterne, sur lesquels on se prosterne, les membres sur lesquels on se prosterne, comme son front, son nez, ses deux mains, ses deux genoux et les bouts de ses pieds. Et il dit « وَعَلَى مَغَابِنِ الْبَدَنِ » et également dans les plis ou dans les endroits creux du corps, comme « الْإِبْطَيْنِ وَطَيْءَ الرُّكْبَتَيْنِ وَسُرَّتِهِ وَيُجْعَلْ مِنَ الطِّيبِ بَيْنَ الْأَكْفَانِ فِي رَأْسِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللَّفَافَةِ اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه ثم donc il dit que dans les plis du corps, comme par exemple en dessous des bras, on en met également du parfum, avec également en dessous des genoux et dans le nombril, et on met le reste de le reste du parfum entre les différents draps à l'endroit de sa tête. À l'endroit de la tête du mort, on met le reste du parfum à chaque couche à chaque drap qu'on plie. À chaque fois qu'on plie le drap, on va mettre du parfum à l'endroit de sa tête. Et le cheikh, il dit, donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par le premier drap, celui qui est directement en dessous du mort. Et là, on plie le côté gauche sur son côté droit. Et on prend l'autre côté droit, le côté droit, et on le plie jusque par-dessus son côté gauche. Et on fait la même chose avec le deuxième. On le plie par-dessus le côté, on place le côté gauche, on le met par-dessus le côté droit, puis le côté droit par-dessus le côté gauche. Donc c'est comme si on l'enveloppe avec ces draps-là, avec un drap. On commence par le premier, on fait un côté, puis l'autre par-dessus. Ensuite, le deuxième drap, celui qui est en dessous du premier, on met le côté gauche, ensuite le côté droit. Et ensuite, le troisième, on fait la même chose. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne est enveloppée complètement, son corps est complètement entouré par les trois draps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il doit rester un morceau en haut de sa tête, un morceau qui est surplus, qui dépasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau-là? On le plie par-dessus sa tête. Le morceau de drap qui dépasse par en haut, on le plie par-dessus sa tête. Et le morceau de drap qui dépasse par en bas, par ses pieds, on le plie par-dessus ses pieds. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on enveloppe le mort avec les différents draps. Il dit donc, وَيَكُونُ الْفَاضِلُ مِنْ طُولِ الْفَائِفِ عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرُ. Il faut que le surplus qui dépasse au niveau de la tête soit plus long que qu'est-ce qui dépasse pour les pieds. Il dit ثُمَّ يَجْمَعُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَيُرَدُّ عَلَى وَجْهِهِ وَيُجْمَعُ الْفَاضِلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَيُرَدُّ عَلَى رِجْلَيْهِ ثُمَّ تُعْقَدْ عَلَى اللَّفَائِفِ أحزمة لأن لا تنتشر وتحل العقد في القبر. وأما المرأة فتكفن في خمسة أثواب وإزار تأزر به ثم تلبس قميصا ثم تخمر بخمار على رأسها ثم تلف بلفافتين. Donc, il dit que il faut ensuite, une fois qu'on a plié qu'est-ce qui dépasse au niveau de la tête en haut et en bas, les pieds, on recouvre, comme on a dit, on les replie sur le visage et sur les pieds, et on attache maintenant les draps avec des attaches ou bien avec des ceintures ou quelque chose pour faire en sorte que les draps ne vont pas se déplier alors qu'on le transporte et alors qu'on le descend dans la tombe. En ce qui concerne la femme, elle est habillée, elle est couverte par 5 tissus. Premièrement, un izar. Ensuite, un qamis qu'on met par-dessus elle, une longue robe. On met le izar pour les jambes en bas, de la taille jusqu'aux pieds. Après, le qamis, c'est la longue robe qu'on met jusqu'aux pieds, qui couvre le corps jusqu'aux pieds. Ensuite, on lui met sur sa tête un khimar et on l'enveloppe avec deux draps, comme on l'a fait pour l'homme avec les trois draps. Les trois draps, on le fait avec la femme, mais avec deux draps. Puis on fait la même chose qu'on a fait pour l'homme, on replie les surplus par en haut sur le visage et par en bas sur les pieds. D'accord? Après, le cheikh il dit أحكام خامسا أحكام الصلاة على الميت. Donc là on a compris maintenant comment on enveloppe le mort avec les différents draps, et maintenant c'est les règles au sujet comment on fait la prière lorsqu'on a terminé de faire ça, comment on fait la prière sur le mort. الشيخ يجي ثم تشرع بعد ذلك الصلاة على الميت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. Donc ensuite qu'on a terminé, donc on va faire la prière sur le mort. Et le prophète sallam a dit, selon Abi Huraira, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui assistait à la janaza, c'est-à-dire la prière sur le mort, il a la récompense d'une qirat. Et celui qui a assisté à la prière, qui a fait la prière sur le mort, puis qui a assisté jusqu'à ce qu'on l'enterre, il en a deux. Il a deux qirat. Hein, qiratan. Alors les sahaba ont dit, qu'est-ce que c'est al-qiratan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce sont deux grosses montagnes. Donc c'est comme si il avait deux grosses montagnes de hasanat. D'accord? Ensuite le cheikh il dit, wa salatu ala al-mayyit fardu kifaya. Donc de faire la salat sur le mort, c'est un fard kifaya. Idha fa'alaha al-ba'd saqata al-ithm 'an al-baqin wa tabqa fi haqq al-baqin sunnah. Donc le cheikh il dit que c'est un fard kifaya. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si certains musulmans l'ont fait, alors c'est le péché, il n'y a plus de péché pour les autres de ne pas l'avoir fait. Mais si donc c'est ça, si un groupe ou une partie des musulmans ont prié sur le mort, donc les autres n'ont pas de péché de ne pas l'avoir fait. Mais toutefois, ça reste une sunna pour les autres. Hein? Donc, c'est obligatoire qu'il y ait un minimum de musulmans qui prient sur cette personne-là. Et pour les autres, ça devient sunna. Si un groupe l'a fait. Donc, pour les autres, c'est plus obligatoire, mais c'est recommandé d'assister quand même. Mais si tout le monde l'abandonne, tout le monde, personne ne le fait, donc dans ce cas-là, tout le monde est considéré comme ayant fait un péché du fait qu'ils ont abandonné cette obligation. الشيخ الزي ويشترط في الصلاة على الميت النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلى والمصلى عليه واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كانت بالبلد وكون المصلي مكلفا. Le cheikh il dit, il faut comme condition pour la prière sur le mort, il faut premièrement avoir l'intention de prier la prière de janaza, deuxièmement être en direction de la qibla, troisièmement il faut que la aura soit couverte, et quatrièmement il faut que l'endroit où on prie et celui sur qui on prie soit pur. Celui qui prie et celui sur qui on prie, il faut qu'il soit pur. Il faut éviter les impuretés. Il faut que les deux soient musulmans. Celui qui prie et celui sur qui on prie, il faut que les deux soient musulmans. Et il faut assister à la janaza, c'est-à-dire être présent à l'endroit où la janaza se produit. Et il faut que la personne qui fait la prière soit mukallaf, c'est-à-dire soit parmi les gens pour qui la prière est obligatoire. أما أركانها فهي القيام فيها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والتسليم. Donc le cheikh il dit que les piliers de la prière de janaza pour la funéraille, c'est quoi ces piliers là, c'est-à-dire les piliers, c'est qu'est-ce qui est nécessaire, sinon ça compte, la prière est pas valable. Donc ces piliers là dans cette prière là, c'est que il faut qu'on soit debout premièrement, il faut que le takbir, il y ait quatre takbirs, il faut qu'il y ait la récitation de la sourate d'Al-Fatiha, et il faut qu'il y ait le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il faut qu'il y ait le dua pour le mort, et il faut le faire dans l'ordre. Et après on fait le taslim, c'est-à-dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite le cheikh il dit amma sunanuha fahiya raf'u al-yadayn ma'a kulli takbira wal isti'adha qabla al-qira'a wa an yad'u li nafsihi wa lil muslimin والإصرار بالقراءة وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره والالتفات على يمينه في التسليم. Donc le cheikh il dit que les sunan, les choses qui sont disons recommandées de faire dans la prière mais qui ne sont dans la prière de janaza mais qui sont pas obligatoires, il dit c'est de lever les mains avec chaque takbir, de faire al-isti'aza, de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala avant de réciter al-fatiha, de faire le dua pour soi-même et pour le mort et pour les musulmans, et de réciter à voix basse là, de réciter à voix basse qu'est-ce qu'on récite de la du Coran, de se tenir après un petit peu après le dernier takbir, après le quatrième takbir, et avant de faire le taslim de se tenir un petit moment avant de faire le taslim, et de mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine, et il dit de se tourner sur la droite lorsqu'on fait le taslim. Donc ça, c'est les choses qui sont recommandées dans la prière de al-janaza. Donc en fait, en résumé, pour faire la prière janaza, c'est très facile. En premier, l'imam est devant il va se tenir devant le corps du mort. Si c'est un homme, il se tient au niveau de sa poitrine. Si c'est une femme, il se tient en son centre. Et les gens qui prient avec l'imam pour le mort, ils sont derrière l'imam en rang, comme d'habitude. Et là, l'imam va faire le premier takbir, hein. Et là, il va réciter Al-Fatiha. Ensuite, il fait encore un autre takbir en levant les mains, Allahu Akbar. Et là, il va réciter le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. OK. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, etc. Comme ça jusqu'à la fin. Et après, il fait takbir encore, et là il fait un dua pour le mort. Hein? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana, إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، وإن توفيته منا فتوفيه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا ومن الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. Donc ça c'est un exemple de dua que on peut réciter durant la janaza. Ensuite, on fait un quatrième takbir, Allahu Akbar, et là on se tourne vers la droite puis on dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc lorsqu'on a fait ça, ça y est, ça complète la prière de janaza. Donc dans la prière de janaza, il n'y a pas de recours et il n'y a pas de sujoud. C'est seulement debout, puis on récite comme ça les choses qu'on a mentionnées. Maintenant, je vais lire la parole du cheikh qui explique cette chose-là dans le livre. Il dit « Takounu salatu ala al-mayyit bi an yaqoum al-imam wal-munfarid inda sadr al-rajul wa wasat al-mar'a wa yaqifu al-ma'moum khalf al-imam wa yusannu ja'luhum thalatha sufuf ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في التشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد منه، وإن كان المصلى عليه أنثى قال اللهم اغفر لها بتأنيث الضمير في الدعاء كله. Donc si le cheikh il dit à la fin, en plus il rajoute, il dit que si la personne sur qui on prie c'est une femme, Donc on le met au féminin, le dua. Au lieu de le dire au masculin, on dit le dua au féminin puisque c'est une femme. Ensuite il dit وَإِنْ كَانَ الْمُصَلَّ عَلَيْهِ صَغِيرًا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطًا وَدَخِرًا لِوَالِدَيْهِ وَشَفِيعًا مُجَابًا اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وبرحمتك عذاب وقه برحمتك عذاب الجحيم. Ça c'est un ajout. Il dit que si c'est un enfant, la personne qui est celui qui est mort, c'est un enfant. Donc on rajoute cette partie de dua qui est rapportée par Ibn Abi Shayba et Abd al-Razzaq. Toutefois, je n'ai pas vérifié l'authenticité de cet ajout. Donc, Allahu a'lam. Il faudrait vérifier, dans, peu importe, de toute façon, le livre de Cheikh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, qui s'appelle Ahkamul Janaiz. Et dans ce livre-là, Ahkamul Janaiz, le Cheikh Al-Albani, il a mentionné tous les hadiths, ou la plupart des hadiths qui parlent des règles des funérailles, et puis il a expliqué qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui n'est pas authentique dans ces hadiths-là. Donc c'est une très bonne référence comme livre d'explication pour ce sujet. Donc, alhamdulillah. Ensuite, le Cheikh il dit ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ومن فاته بعد الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات أي بدون فصل بينهما ثم سلم. Le cheikh il dit que si la personne est arrivée, il a rejoint la prière alors que l'imam avait déjà commencé, donc il a attrapé une partie de la prière de janaza, mais il n'a pas tout attrapé. Donc il rentre avec l'imam, puis il fait qu'est-ce qu'il reste à faire avec l'imam, puis quand l'imam fait le taslim, il fait qu'est-ce qu'il a manqué selon la description qu'on a donnée tout à l'heure. Et s'il a peur que la janaza parte avant qu'il soit capable de la suivre, c'est-à-dire s'il a peur de manquer la funéraille, de ne pas être capable de les suivre, alors dans ce cas-là, il fait les takbir un après l'autre, sans espace entre les takbir, puis il fait le taslim tout de suite. Après, il dit وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ دَفْنِهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ. Il dit celui qui a manqué la prière sur le mort avant qu'il soit enterré, il peut faire un dua pour lui à sa tombe. ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. Cheikh il dit que si la personne était absente, n'était pas dans le pays, dans la ville, à l'endroit où la personne est morte, et qui n'a pas su à ce moment-là que la personne était morte, mais qu'il l'a appris par la suite, alors il prie sur lui la prière de l'absent avec l'intention, hein. Donc il fait sa prière de janaza, sa prière sur lui, yani comme la prière du ra'ib, comme on dit salatul ra'ib. Toutefois on la fait pas en jama'a, fait individuellement. Et ça, cette opinion ici du cheikh qu'il mentionne ici, je sais pas, je suis pas certain de est-ce que c'est correct. Ça faudrait que je vérifie, mais toutefois ça semble correct. Toutefois, si quelqu'un l'a fait en groupe, comme par exemple on a déjà prié sur un mort dans un autre pays, dans un pays musulman, puis une personne est dans un autre pays, puis il veut demander aux musulmans de faire une autre prière pour le mort, ça c'est pas correct et ça c'est pas permis parce qu'on a déjà prié sur le mort. Et c'est seulement dans certains cas où quand quelqu'un d'important est mort que c'est permis par exemple le dirigeant demande qu'on fasse une prière sur cette personne-là comme particulière, hein, parce que c'est une personne importante ou quelque chose de ce genre. Dans ce cas-là, oui, c'est comme l'exemple de An-Najashi lorsqu'il est mort. c'était l'empereur d'Éthiopie à l'époque, il a dit « Priez sur votre frère ». Donc, dans ce cas-là, oui, c'est, dans certains cas, c'est permis. Mais sinon, individuellement, si quelqu'un le fait, c'est, d'après ce que je lis de la parole du cheikh ici, c'est quelqu'un qui fait la prière sur le mort de façon individuelle et pour lui-même, avec tout seul, il fait la prière sur le mort parce qu'il n'a pas entendu parler de, ou qu'il n'a pas appris la mort de la personne atteinte, ou qu'il n'était pas présent à l'endroit où la prière a eu lieu. Donc il fait la prière sur le mort avec cette intention là. Wallahu a'lam. Après le cheikh il dit wa hamlul mar'a idha saqata mayyitan wa qad tama lahu arba'at ashhur fa akthar salla 'alayhi salatul janaza wa in kana duna arba'at ashhur lam yusalla 'alayhi. Cheikh il dit que si la femme était enceinte et qu'elle a, elle a fait une fausse couche, et que c'est et le fœtus était moins que 4 mois, on ne fait pas la prière de janaza sur le fœtus. Toutefois, s'il était plus que 4 mois, on fait la prière de janaza sur lui. Ensuite, le cheikh il dit, نعم الشرط الخامس النية من شروط الصلاة. Non, ça c'est, pardon, c'est pas le bon. Ok, c'est ici. سادسا حمل الميت ودفنه. C'est-à-dire le sixième point, de porter le mort et de l'enterrer. Il dit حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال تعالى ثم أماته فأقبره أي جعله مقبورا. والأحاديث في دفن الميت مستفيضة وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به. Le cheikh il dit que de porter le mort et de l'enterrer, ça fait partie des furud al-kifaya. Si un nombre de musulmans l'ont fait, alors c'est plus obligatoire pour le reste. Et donc pour ceux qui, parmi les musulmans qui sont au courant de, ou qui ont su que la personne est morte, eh bien pour eux c'est donc obligatoire de l'enterrer. Et c'est légiféré par le Coran et par la Sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset dans Surat al-Mursalat, le verset 25 et 26, Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Donc, c'est-à-dire, n'a-t-on pas fait la terre, 25 et 26, n'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts? Donc, c'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose pour dire que yani, la terre, c'est elle qui nous contient, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort. Et dans un autre verset, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ, le verset 21 dans Surat Abasa, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui le fait mourir, puis ensuite qui le fait enterrer. Et جَعَلَهُ مَقْبُورًا, c'est lui qui le rend, qui fait de lui qu'on l'enterre. Et les hadiths au sujet d'enterrer le mort sont très très nombreux. Et c'est une bonne action, c'est une obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un acte de bonté envers le mort, du fait qu'on s'occupe de lui, qu'il soit vivant et qu'il soit mort, on s'occupe comme il faut de lui et on prend soin de qu'est-ce qu'il a besoin. Ensuite, le cheikh il dit wa yusannu ittiba'u al-janaza ittiba'u al-janaza wa tashyi'iha ila qabriha. ففي الصحيحين من شاهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شاهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. C'est le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure. Le cheikh il dit donc que c'est recommandé de suivre la janaza et d'accompagner le mort jusqu'à sa tombe. Comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, le hadith qui dit « Celui qui a assisté à la prière de la funéraille d'une personne, il a une qirat. Et celui qui est resté jusqu'à ce qu'il soit enterré, il en a deux. Il a deux qirat. Et les sahabes ont dit, qu'est-ce que c'est al-qirat ou al-qiratan? Il a dit, ce sont deux montagnes, deux grandes montagnes ou deux grosses montagnes. Donc il a comme la quantité de deux grosses montagnes de hasanat pour avoir fait ça. C'est rapporté par al-Bukhari et Muslim. ولي البخاري بلفظ من شيع ولي مسلم بلفظ من خرج من جنازة من خرج مع جنازة من بيتها ثم تابعها حتى تدفن. Donc dans une des narrations de al-Bukhari, c'est écrit celui qui suit une janaza, man shayya, et dans une autre narration c'est pour Muslim. Ça dit, celui qui sort avec la janaza et qui la suit jusqu'à ce qu'elle soit enterrée. Donc ici encore, il y a la mention du fait de suivre la janaza. Et ça c'est, donc comme on a dit, c'est des ajouts qui sont dans Al-Bukhari et dans Muslim également. Après le cheikh il dit, « Wa fi sahihain » Ok. Désolé. وفي الصحيحين. Non, il dit وفي الحديث. ففي الحديث بروايته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها. Donc dans le hadith avec ses ajouts, il y a donc l'incitation à accompagner les funérailles, accompagner le mort jusqu'à sa tombe. ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة. Donc le cheikh il dit que c'est recommandé de suivre et de participer à apporter le mort si c'est possible. Donc c'est bon de que les gens se partagent le port du cercueil, ou bien pas du cercueil mais du corps du mort, et c'est également permis de porter le corps dans une voiture ou bien sur une monture, en particulier si le cimetière est très très loin. Dans ce cas-là, yani, c'est plus facile de le porter dans une voiture ou sur une monture quelconque. Après le cheikh dit ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم عن رقابكم. Donc le cheikh il dit que c'est également recommandé de se dépêcher avec le corps du mort pour l'amener le plus vite possible dans la tombe, à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit dépêchez-vous avec la janaza. Si c'est une personne qui est pieuse et qui est bonne, eh ben c'est quelque chose, vous l'amenez vers quelque chose de bien. Mais si c'est autre qu'une personne qui est bonne, alors c'est un mal dont vous vous débarrassez, hein? C'est un mal que vous ôtez de vos coups, yani. Donc c'est comme pour dire, yani, si c'est une personne qui est pieuse, donc vous l'amenez vers quelque chose de bien, donc dépêchez-vous. Et si c'est quelqu'un qui était mauvais, alors dépêchez-vous également, comme ça vous en êtes débarrassé. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira رضي الله عنه. إيه للشيخ زي ولكن لا يكون الإسراع شديدا وتكون على حاملها ومشيعيها السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل أو وذكر أو قولهم استغفر الله وما أشبه ذلك لأن هذا بدعة. للشيخ زي Mais même si on se précipite ou même si on se dépêche, il ne faut pas se dépêcher trop. Il ne faut pas non plus se dépêcher trop au point que yani ça devienne exagéré. Et il faut quand même que, même si on se dépêche, il faut quand même qu'on soit en sérénité. Ceux qui portent le corps et ceux qui accompagnent le corps, eh bien, ils doivent également avoir la sérénité. Et donc, ça veut dire ils se dépêchent, mais pas d'une façon exagérée, et ils gardent le calme. Ensuite, le cheikh, il dit qu'ils ne doivent pas non plus élever la voix, ni par la lecture du Coran, ni par des formes de dhikr quelconque, ni par la parole de dire astaghfirullah ou n'importe quelle autre forme de parole. Ils font juste porter le corps, puis ils l'amènent là où il doit aller, et ils ne disent rien en chemin, et ils ne lèvent pas la voix. Parce que ceux qui font ça, c'est une bid'ah. C'est une bid'ah. C'est contraire à la sunnah. Après, le cheikh, il dit, يحرم خروج النساء مع الجنائز لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Ça dit que c'est interdit pour les femmes de sortir avec la avec les gens lorsqu'ils amènent le corps. Et de suivre pour, et c'est pas permis pour elle de suivre le mort. C'est rapporté dans un hadith selon Atiya qui dit on nous a interdit de suivre les funérailles. Et les femmes n'avaient pas l'habitude de suivre les funérailles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour accompagner les funérailles, ça c'est quelque chose qui est spécifique à l'homme et non aux femmes. Ensuite, le cheikh dit wa yusannu an yu'ammaq al-qabr wa yuwassa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ihfiru wa awsi'u wa ammiqu wa qala at-Tirmidhi hasanun sahih. Cheikh, il dit que c'est également une sunna d'élargir la tombe. Et il dit que c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit creusez et élargissez et faites-le profond. Donc, de faire le tombeau le plus profond possible. Et ça, c'est rapporté selon Hisham ibn Amir, par Abu Daoud et avec la mention de A'miqu, c'est-à-dire faites le plus profond, wa akhrajahu aydan bidun lafz A'miqu, c'est également rapporté sans la mention du verbe A'miqu, et c'est mentionné avec un autre terme Hassinu, et également At-Tirmidhi l'a rapporté. Le hadith d'Abu Daoud c'est 3216 et l'autre c'est 3215 et l'autre dans At-Tirmidhi c'est 1717. Ensuite, le cheikh il dit « وَيُسَنُّ سَتْرُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ إِنْزَالِهَا فِيهِ لِأَنَّهَا أَوْرَةٌ » Il dit que c'est également recommandé de couvrir le cercueil de la femme ou la tombe de la femme lorsqu'on la descend dans la tombe, car elle est awra. Et le cheikh il dit wa yusannu an yaqul man yanzil al mayyit fi al qabr bismillah wa ala millati rasulillah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha wada'tum mawtakum fi al qubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam rawahu al khamsa illa al nasa'i wa hassanahu al tirmidhi. Donc, le cheikh, il dit ici que c'est recommandé de dire, lorsque tu descends le mort dans la tombe, « Bismillah » et sur la religion du messager d'Allah. Parce qu'il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsque vous mettez vos morts dans la tombe, dites « Bismillah » ala millati rasulillah » et c'est rapporté par Ahmed Abu Dawud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et At-Tirmidhi a dit que c'est sahih. Ensuite, non, que c'est Hassan, pardon, que c'est Hassan. Il dit وَيُوضَعُ الْمَيِّتِ فِي لَحْدِهِ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدْ وَغَيْرِهِ. Donc le cheikh il dit qu'on met le mort dans le creux de la tombe sur son côté droit en face de la Qibla à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit au sujet de la Kaaba, c'est votre Qibla à tous, vivant comme mort. Hein? Donc vivant et mort, tous les deux, leur Qibla c'est la Kaaba. Et c'est rapporté selon Abu Daoud et selon, c'est rapporté par Abu Daoud selon Ubayd ibn Umair et selon son père. Donc Al-Lahd, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, creuse la tombe, il fait un trou par une fois qu'il a creusé, il fait une légère ouverture sur un côté de la tombe. Et c'est là qu'on va mettre le corps. Donc c'est ça, Al-Lahd, c'est quand tu fais une ouverture sur le côté. Donc il y a la tombe et puis on fait un trou sur un des côtés de la tombe pour mettre le mort dans ce trou là par l'intérieur, soit à droite. Et ça veut dire que lorsque on va mettre la terre dans le trou, la terre va pas tomber directement sur le mort, va tomber à côté, parce que le mort est dans un trou vers la droite. Et également, on peut faire un trou au centre également, et on rentre le mort dans ce trou-là à l'intérieur de la tombe, et on va le recouvrir, comme ça quand on met la tombe par-dessus, quand on met la terre par-dessus, la terre tombe pas directement sur le mort, mais tombe sur les choses qu'on met par-dessus, pour pas que, donc on met de la terre sur le mort. Et lorsqu'on met le corps dans cette entrée-là, dans cette lahd à droite, qu'est-ce qu'on fait? On le met face à la qibla. Ok? Parce que c'est la qibla pour les vivants et pour les morts. C'est la direction de la Kaaba. Après, le cheikh il dit wa yuj'al tahta ra'sihi labina. أو حجر أو تراب ويدنى من الحائط أو من حائط القبر الأمامي ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que tu mets sur la tête, en dessous de la tête du mort, une brique ou bien une pierre ou bien de la terre, et tu le rapproches du mur au fond de qu'est-ce qu'on appelle al-lahd, hein, la petite entrée là dont j'ai parlé, qu'on fait au fond de la tombe, et on met donc le ventre du mort sur le mur du cercueil, pas du cercueil mais de la tombe, sur le ventre sur le mur en face, en direction de la Qibla. D'accord? Donc c'est comme s'il a son visage au fond sur le mur, et on met en dessous de sa tête une pierre pour qu'elle reste en place, et on met dans le dos du mort, dans son dos on place de la terre pour que le mort ne retombe pas sur le dos ou bien sur son visage. Donc, pour qu'il reste donc comme ça sur son côté droit, en face de la Qibla, et le visage face au mur. Et après il dit ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبنة والطين حتى يلتحم ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير ترابه. Cheikh, il dit que une fois qu'on a terminé de placer comme il faut le corps dans le petit trou dans l'ouverture qu'on a fait à la droite, qu'on appelle al-lahd, on referme cette ouverture avec des briques. Hein? Donc là, ça aurait été l'idéal de vous faire un dessin pour que vous compreniez exactement de quoi je parle. Toutefois, j'essaie de vous faire comprendre verbalement le plus facilement possible. C'est que si on regarde la tombe, ça a la forme d'un L. Hein? Si on regarde un L, il y a l'ouverture de la tombe. Hein? Et puis il y a une petite ouverture sur le côté, donc ça a la forme comme la lettre L. Et puis dans le pied du L en bas, c'est là qu'on rentre le mort. Et quand on a terminé, on va fermer cette ouverture là en bas, ok, et puis on va fermer cette ouverture là avec des briques ou de la terre. Comme ça, quand on met de la terre, quand on remet la terre dans la tombe, c'est pas sur le mort que ça tombe à côté, là où on a mis les briques. Parce que le mort, lui, il est en dessous dans le coin du L là, en bas, quand j'ai mentionné l'exemple. J'espère qu'avec cet exemple-là, ça facilite un peu plus la visualisation et la compréhension de l'exemple que j'essaie de vous donner. Et puis donc, on remet la terre et on n'a pas le droit de mettre autre que la terre qu'on a enlevée. Hein? On n'a pas le droit de rajouter d'autres terres autres que la terre que celle qu'on a enlevée de cette tombe-là. Ensuite, le cheikh dit « وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ وَيَكُونُ مُسَنِّمًا أي muhaddiban kahiatis as-sinam. Donc il dit que on doit la tombe, une fois qu'on a remis la terre, on doit faire comme une sorte de bosse, hein, qui a la hauteur d'environ une main, la hauteur d'une main, et ça doit faire comme une bosse par-dessus. OK? Wa li tanzil alayhi al-miyah as-sayul. السيول وتوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير. Il dit que on fait une bosse comme de cette forme là, d'une forme d'une bosse. La terre, on la met comme une forme d'une bosse pour que lorsqu'il y a de la pluie ou de l'eau qui va tomber, ça va couler dessus, ça va pas rester. Et puis après il dit non. Donc on va mettre une pierre dessus et on va mettre un peu d'eau aussi pour que la terre reste ensemble, pour pas qu'elle commence à s'envoler dans le vent. والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده ليعرف بها وليعرف بها و من غير أن يكتب عليه. الشيخ dit que la sagesse dans le fait de mettre la terre d'une hauteur d'une main, comme on a mentionné, par-dessus la tombe, c'est pour justement qu'on sache que c'est une tombe et qu'elle ne soit pas profanée. Et également, on peut placer comme une pierre ou quelque chose dessus pour montrer la limite de cette tombe, pour que justement on sache où elle commence et où elle finit. Comme ça, on va pas marcher dessus sans toutefois écrire quoi que ce soit sur cette tombe. C'est-à-dire, on doit pas écrire quelque chose dessus comme les koufars ont l'habitude de faire dans les cimetières, d'écrire le nom de la personne ou etc. Ça, c'est pas permis. Le cheikh dit wa yustahab itha furiga min dafnihi an yaqif al-muslimuna ala qabrihi wa yad'u lahu wa yastaghfiru lahu li'annahu alayhi salatu wassalam kana itha furiga min dafn al-mayyit وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود. Le cheikh il dit que c'est recommandé lorsqu'on a terminé d'enterrer le mort de rester là et où il est enterré et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner et de faire des doigts pour lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait terminé d'enterrer le mort, il restait et il disait demandez pardon pour votre frère et demandez pour lui qu'il ait la fermeté, car en ce moment il est questionné. Hein, les anges le questionnent. C'est rapporté par Abu Daoud, le hadith 3221, c'est selon Uthman. Après le cheikh il dit أما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذه بدعة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام وكل بدعة ضلالة. Le cheikh il dit en ce qui concerne le fait de lire le Coran à la tombe, il dit ça c'est une bid'ah. Le prophète صلى الله عليه وسلم il ne l'a jamais fait, ni les sahaba, et toute bid'ah est un égarement. Après il dit ويحرم على القبور البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها. Il dit c'est interdit de construire quoi que ce soit sur la tombe ou de la plâtrer, de mettre du plâtre dessus ou d'écrire quoi que ce soit dessus. Hein? Et ça c'est quelque chose, hein, souvent les gens ont contredit la sunna à ce sujet là. Ils ont construit des trucs sur la tombe, ou bien ils ont mis du plâtre, ou bien ils ont écrit des choses dessus, ou ils ont construit quelque chose dessus. Et ça, c'est haram. Le cheikh il dit, les qawli Jabir, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an yujassas al-qabr, wa an yuq'ad alayh, wa an yubna alayh. Rawahu Muslim. Donc, l'imam Muslim a rapporté selon Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de plâtrer la tombe ou qu'on s'assoit dessus ou bien qu'on ait construit quelque chose dessus. Et rawat Tirmidhi wa sahahahu min hadith Jabir marfu'an naha an tujassas al-qabr wa an yuktab 'alayha wa an yubna 'alayha wa an tuta. Le cheikh il rapporte que l'imam Tirmidhi a mentionné et qu'il a authentifié également selon Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de plâtrer une tombe ou d'écrire quoi que ce soit dessus ou de construire dessus ou qu'on marche dessus. لأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرف على القبر تعلقوا به. Le cheikh il dit que le fait de construire sur les tombes des constructions et des trucs comme ça, comme les gens de Bid'a font parmi les Shia et les Soufia qui font des constructions sur les tombes, hein, et bien ça amène au shirk. C'est parmi les choses qui amènent au shirk et ça amène les gens à s'accrocher aux tombes. Et les ignorants parmi les gens, lorsqu'ils voient des constructions et des décorations sur les tombes, ils s'accrochent à ces tombes-là et ils donnent à ceux qui sont enterrés dans ces endroits-là il leur donne une forme d'adoration. Et donc ça c'est interdit. Et ça amène au shirk. Le cheikh il dit ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها ويحرم اتخاذ المساجد عليها أي ببناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها. Le cheikh il dit que c'est interdit également d'éclairer les tombes avec soit des chandelles ou soit avec des lumières électriques, une lumière électrique ou peu importe quel moyen qu'on utilise pour les éclairer. Hein, donc on ne doit pas les éclairer la nuit. Et il dit que c'est interdit également de prendre ces lieux-là comme des lieux de prière et des endroits où on construit des mosquées. De construire des mosquées sur les tombes ou bien de prier près des tombes ou là où il y a des tombes, c'est pas permis. Et le cheikh il dit وتحرم زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. الشيخ dit que c'est interdit pour les femmes de visiter les tombes à cause du hadith du prophète صلى الله عليه وسلم dans lequel il dit Allah a maudit les femmes qui visitent les tombes et celles qui mettent des mosquées dessus, ceux qui mettent des mosquées dessus sur les tombes ou des chandelles sur les tombes. Et toutefois ce hadith il est daïf d'après ce que j'ai trouvé dans Irwa al-Ghalid, le hadith numéro 761, Cheikh al-Albani l'a déclaré daïf. Le Cheikh dit wa fi sahih لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Le Cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté dans الصحيح صحيح البخاري مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées. ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم. Il dit que également parce que le fait d'élever les tombes et de construire sur les tombes, c'est la base du shirk qui est apparu dans le monde. C'est ça l'origine du shirk. Et le shirk il dit wa tahrumu ihanatul qubur bil mashi 'alayha wa wad'iha bin ni'al wal julus 'alayha wa ja'liha mujtami'an lil qammamat aw irsal al miyah 'alayha. لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده فتخلص إلى جلده تخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. Cheikh il dit que c'est pas permis de profaner ou de manquer de respect à une tombe en marchant dessus, soit avec yani peu importe qu'est-ce qu'on marche, si on marche avec des sandales ou avec des souliers ou autre, c'est pas permis de marcher sur les tombes ou de s'asseoir sur les tombes. Et c'est pas permis également de jeter des ordures dans les cimetières, ni d'envoyer de l'eau sur les cimetières, sur les tombes. Et c'est rapporté selon Abi Huraira, par l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est préférable pour l'un d'entre vous de s'asseoir sur un charbon ardent, qui brûle ses vêtements et qui le fait coller à sa peau, que de s'asseoir sur une tombe. Donc, yani, ça montre la menace sévère pour quelqu'un qui s'assoit sur une tombe. Et le Cheikh dit, وَمَنْ قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ مَنْ تَدَبَّرَ نَهْيَهُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالْإِتِكَاعَ عَلَيْهِ وَالْوَطْئِ عَلَيْهِ عَلِمَ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ إِحْتِرَامًا لِسُكَّانِهَا أَنْ يُوطَأَ بِالنِّعَالِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ. Cheikh dit que l'imam Ibn Qayyim a dit, celui qui réfléchit sur l'interdiction de s'asseoir sur la tombe et de s'accoter dessus ou de marcher dessus, il va comprendre que l'interdiction c'est pour montrer du respect à ceux qui habitent dans ces tombes, pour ne pas qu'on marche dessus avec nos chaussures sur leur tête. Et on voit que dans certains pays musulmans, subhanallah, ils ont contredit ces exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont contredit ça en mettant des constructions sur les tombes. Il y a certains cimetières dans les pays musulmans, si vous voyez ça là-bas, c'est comme des villes. Les cimetières sont comme des villes tellement il y a des constructions sur les tombes. Et il y a même des villes où, comme en Égypte par exemple, des frères m'ont raconté qu'il y a des cimetières là-bas où il y a des gens qui sont allés habiter même dans les cimetières. Et ils ont fait des maisons avec les constructions qui sont sur les tombes, Et ils ont même entré l'électricité là-bas. Hein? Et ils vivent dans ces endroits-là. Donc c'est pour dire comment les gens ont contredit la sunna du fait qu'ils ont construit sur les tombes et du fait qu'ils marchent sur les tombes. Ils marchent sur les endroits où les gens sont enterrés. Donc ça c'est contraire encore une fois. Le cheikh dit « Sabi'an ahkam al-ta'ziyah » وزيارة القبور. الشيخ دي تسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة وردت بمعناه أحاديث. Le cheikh il dit que c'est également recommandé de souhaiter à celui qui est mort nos condoléances, hein, c'est-à-dire d'aller pour l'inciter à la patience et pour faire des doigts pour la personne qui est morte. Et l'imam ibn Majah a rapporté, selon Amr ibn Hazm, avec une isnad qui a des gens fiables dedans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un croyant souhaite ses condoléances pour un autre musulman ou bien souhaiter ses vœux à la personne qui est morte, la famille de la personne qui est morte, Allah subhanahu wa ta'ala va la couvrir au jugement dernier des bijoux ou des décorations de noblesse. Quelque chose dans ce sens-là, c'est rapporté selon Ibn Majah, par Ibn Majah. Après le cheikh dit ولفظ التعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. Il dit que la parole que tu dis à la personne, c'est que Allah augmente ta récompense et qu'il pardonne pour celui qui est mort وأحسن عزاءك. C'est condoléances et réconfort, consolation. C'est ça. Donc, c'est ça. Après, le cheikh il dit وَلَا يَنْبَغِي الْجُلُوسِ لِلْعَزَاءِ وَالْإِعْلَانِ عَنْ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمِ. Il dit qu'on ne doit pas s'asseoir pour l'Aza, pour aller faire nos condoléances. Et non plus on ne doit pas annoncer ça comme les gens le font aujourd'hui. C'est recommandé de préparer de la nourriture pour les gens qui sont morts, pour la famille des gens qui sont morts, pour la famille du mort, parce que peut-être qu'eux-mêmes ils n'ont pas le temps de préparer de la nourriture. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit préparez pour la famille de Ja'far de la nourriture, car il y a cet événement qui est arrivé qui les a préoccupés et qui les a donc empêchés de faire de la nourriture. Et c'est rapporté selon Ahmad et At-Tirmidhi et il a déclaré Hassan. C'est ça, donc c'est selon Qais ibn Abi Hazim et c'est rapporté également selon Ibn Majah, c'est selon Abdullah ibn Ja'far, rapporté selon Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi et Ibn Majah. C'est ça. Après le cheikh il dit amma ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-yawm min ahl al-bayt min anna ahl al-bayt yuhayyi'una makana lil-ijtima' an-nas عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن ويتحملون في ذلك تكاليف مالية فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة. Le cheikh il dit que ce que certaines personnes aujourd'hui font, ils font que par exemple la famille des morts, ils louent une place ou bien ils préparent une place pour réunir les gens, puis ils préparent de la nourriture, puis ils louent des récitateurs du Coran pour lire le Coran, des choses comme ça. Et ils dépensent de l'argent pour faire ça. Le cheikh dit ça, ça fait partie des choses haram et qui sont des bid'ah. C'est des innovations. Et le cheikh dit, l'imam Ahmad a rapporté selon Jarir ibn Abdillah, قال كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقات. Il dit que il dit nous on considérait que le fait de se réunir pour la chez la famille de du mort et de préparer de la nourriture après son enterrement que ça fait par, que ça fait partie du de qu'est-ce qu'on appelle an-niyaha. Comme les gens qui crient lorsqu'il y a un mort, lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, les gens qui font les cris et qui les comment on dit les qui se déchirent, qui se tirent qui déchirent le col de leurs vêtements, puis qui se graffinent les joues ou des trucs comme ça, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle un niyah et ça c'est interdit. Et donc ils considéraient que ça faisait partie de ça. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله رحمه الله جمع أهل المصيبة جمع أهل المصيبة جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه. Il dit que de réunir la famille des gens qui les gens du la famille du mort de réunir la famille du mort pour amener de la nourriture et des gens qui vont lire pour lui donner cette chose là pour le faire pour le mort soi-disant pour qu'il ait l'ajr ou des choses comme ça. Il dit que ça, c'était pas connu chez les salafs et que des ulama, plusieurs ulama ont détesté ça et ont déclaré que c'est haram. Et ça, c'est rapporté par Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Après le Cheikh, il dit قال الترتوشي فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء والمأتم هو الاجتماع على المصيبة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فله طامة فهو طامة وإن كان من التركة وفي الورثة محبور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه. Cheikh, il dit que de se réunir pour lors d'un malheur ou lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, c'est interdit par le consensus des savants. Et il dit que c'est une bid'a et que c'est quelque chose de mauvais. Et ils appellent ça al-ma'atim. Et il dit que il y a rien qui a été rapporté à ce sujet-là. Et il dit non plus il y a la même chose pour ceux qui se réunissent le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le septième jour ou le mois ou l'année de la mort de cette personne. Et ça c'est encore plus grave. Et il dit donc que si c'est fait avec de l'argent que la personne avait laissé pour ses héritiers, mahbourun alayhi, il dit donc ça, dans ce cas là c'est interdit, et de manger de cette nourriture là c'est interdit également si c'est fait sans sa permission, si c'est fait sans sa permission ou des choses comme ça. C'est ce que j'ai compris, wallahu a'lam. Et ça c'est dans le livre Al-Hawadith wal-Bida' de l'imam al-Tortushi. Après il dit وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاظ لأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكركم الآخرة أو تذكر الآخرة ويكون ذلك بدون سفر فزيارة فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط. Le cheikh il dit que c'est recommandé de visiter les tombes pour les hommes en particulier et dans le but de réfléchir et de se rappeler de la mort et également pour faire des doigts pour demander pardon pour les morts. Et c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais à présent vous pouvez les visiter. » Ça c'est rapporté par l'imam muslim et At-Tirmidhi, il a une version dans laquelle il a rajouté « فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ » c'est-à-dire « ça vous rappelle de l'au-delà ». Et il dit que il ne faut pas que ce soit fait avec le, il ne faut pas qu'on ait besoin de se déplacer ou de faire un voyage dans le but de visiter un mort. Et il dit que de visiter un mort, c'est permis avec trois conditions. De visiter la tombe d'un mort, c'est permis avec trois conditions. Premièrement, « Antakuna zairu min al-rijal la min al-nisa li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la'ana Allahu zairat al-kubur » Il dit, le cheikh, qu'il faut que ce soit un homme et non pas une femme parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de visiter les tombes. Toutefois, le hadith que le cheikh a mentionné, c'est pas un hadith sahih. Mais il y a probablement d'autres hadiths à ce sujet-là qui sont peut-être authentiques, mais il faut faire une recherche là-dessus, inshallah. Après, le cheikh il dit deuxièmement, « Antakuna bituni safarin li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la deuxième condition, il ne faut pas que ce soit fait par un voyage. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit la distance d'un voyage qui nécessite d'aller visiter cette tombe. Il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de voyage excepté pour visiter les trois mosquées. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et les musulmans. Et quand on dit d'aller visiter les mosquées, excepté pour trois mosquées, c'est-à-dire dans le but d'aller faire une adoration. Ou dans le but, par exemple, d'aller faire des doigts ou des choses comme ça. Donc, c'est spécifique de faire des voyages pour aller dans les trois mosquées, c'est-à-dire la mosquée à la Mecque, celle qui est à Médine, et la mosquée qui est à Al-Aqsa. Mais les autres endroits, on n'a pas le droit d'aller pour adorer, excepté dans ces trois endroits-là. Après, le cheikh il dit, quand je dis qu'on n'a pas le droit d'aller pour adorer, c'est-à-dire de partir en voyage exprès pour aller adorer dans un endroit spécifique. D'accord ? Le cheikh il dit, « وَإِنْ يَكُونَ الْقَصْدُ مِنْهَا الْاِعْتِبَارُ وَالْاِتِّعَاثُ وَالدُّعَى لِلْأَمْوَاتِ فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَى وَطَلَبِ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ وَتَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ مِنَ الْمَوْتَى فَهَذِهِ زِيَارَةٌ بِدْعِيَّةٌ شِرْكِيَّةٌ » Cheikh il dit, il faut que l'intention de la personne qui part pour visiter une tombe, il faut que ce soit dans le but de prendre des leçons et dans le but de réfléchir et de penser à la mort et de demander pardon pour les morts et non pas autre chose. C'est-à-dire, si quelqu'un va pour visiter la tombe dans le but d'avoir la baraka de la tombe ou bien de demander une bénédiction à la tombe, de prendre une baraka de la tombe ou de demander à ceux qui sont enterrés de régler nos problèmes et de remplir nos devoirs ou les choses qu'on a besoin, demander des choses qu'on a besoin aux morts, dans ce cas-là, ça devient une visite d'une tombe qui est bid'a et qui implique un acte de shirk. Et donc ça, c'est, dans ce cas-là, ce serait interdit. Parce que le cheikh dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زيارة القبور على نوعين شرعية وبدعية فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل والبدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت وهذا شرك أكبر أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من السلف من سلف الأمة وأئمتها انتهى كلامه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné que il y a deux catégories ou deux sortes de visites des tombes, la visite qui est légale et la visite qui est bid'ah, la visite qui est selon la charia et la visite qui est une bid'ah, une innovation, et la visite qui est shar'iyya, qui est selon la charia, c'est celle par laquelle on va pour donner le salam sur le mort et pour faire des doigts pour lui, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner ce mort, comme on fait lorsqu'on prie dans sa funéraille, hein, on demande le pardon pour lui. Et ça, il ne faut pas que ce soit fait avec un voyage, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on ait à voyager ou à faire une expédition ou un long voyage pour arriver là. Et deuxièmement, la bid'a, la visite qui est bid'iyya, qui implique une bid'a, c'est lorsque la personne qui fait ce voyage, ou bien pas son voyage, mais qui va visiter ce mort, la personne qui va visiter ce mort, il le fait dans l'intention de demander au mort de remplir qu'est-ce qu'il a de besoin, ou de faire ce qu'il a de besoin, ou de lui donner quelque chose. Dans ce cas-là, ça devient un shirk majeur qui le fait quitter l'islam. Toutefois, s'il va là-bas juste pour faire des doigts à proximité de la tombe, parce qu'il croit que, par exemple, lorsqu'il est près de la tombe, son doua est plus fort ou est meilleur, ou il va être plus concentré, ou des choses de ce genre, le cheikh dit dans ce cas-là, c'est une bid'a, et c'est quelque chose de rejeté. Et c'est un moyen ou une cause qui nous amène au shirk. Donc c'est très dangereux. Et le cheikh il dit, et ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aucun des salafs de la umma et des imams de la umma n'a jamais recommandé de faire ça. Et ça, c'est la fin de la citation du cheikh Ibn Taymiyyah. Et donc ça vient conclure le chapitre de la salat dans le livre de Al-Mulakhas al-Fiqhi. Et donc on a terminé Kitab al-Salat aujourd'hui. Et Inch'Allah, donc, dans ce cas-là, la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera Al-Zakat, Kitab al-Zakat, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.